Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 10 mars 2025 et on attaque une nouvelle semaine qui risque d'être assez, chaud patate. Encore une fois, parce que effectivement, il y a pas mal de questions qu'on se pose en ce moment sur les marchés, surtout sur les droits de douane. Les gens s'interrogent, on est extrêmement stressé et les marchés sont sur des situations techniques relativement délicates. On sent qu'on est quand même mal positionné et qu'il suffirait de pas grand-chose pour que tout bascule dans le mauvais sens. Mais même si on est tous plus ou moins convaincus que Trump est un miracle, que Trump peut encore nous sauver, que ça prendra un petit peu de temps. D'ailleurs, il l'a encore répété cette nuit, enfin hier soir aux États-Unis. Donc du coup, on va tourner encore autour de ces histoires de droits de douane. Je suis désolé, ceux qui pensaient que ça allait s'arrêter là tout de suite après quelques semaines. Non, ça va prendre du temps. J'aimerais bien pouvoir vous dire quand c'est que ça va s'arrêter. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien que ça s'arrête. Mais pour l'instant, on est encore à fond dedans, donc on fait le point tout de suite sur notre situation avec nos droits de douane et puis deux, trois autres trucs autour également. Visiblement, si l'on croit ce qu'on voit et si on croit ce qu'on entend, eh bien, on pourrait commencer à penser que la principale préoccupation du marché concerne uniquement les droits de douane. Et surtout, l'effet que la politique magique de Donald Trump aura ou pourrait avoir sur l'économie mondiale. Tout le monde essaye aujourd'hui de deviner à quoi ressemblera cette politique tarifaire dans une semaine ou dans un mois. Le problème, c'est que c'est pas simple à deviner, hein, puisque là encore, si on croit ce qu'on voit et si on croit ce qu'on entend, même Trump ne sait pas où on sera ni avec qui les USA seront fâchés d'ici là. Et c'est même pas de la méchanceté vis-à-vis de sa politique. C'est juste qu'il y a qu'à regarder les choses. Il en sait rien. Il change d'avis toutes les 3 minutes et il pédale autant en avant qu'en arrière. Il faut donc dire que ces histoires de tarifs douaniers, pour l'instant, inquiètent pour plusieurs raisons. Premièrement, et tout d'abord, ils peuvent entraîner, on le sait tous, une augmentation des coûts pour les entreprises qui dépendent de l'importation des produits étrangers, qui peut avoir, ce qui devrait d'ailleurs avoir un impact sur les bénéfices, et donc par conséquent, par ruissellement, sur le cours des actions, sans parler de l'emploi, des salaires, parce que ça, c'est qu'un détail dans l'équation. Deuxièmement, ces augmentations de prix peuvent être répercutées, et vont être répercutées sur le consommateur. C'est utopique de penser qu'ils vont rien faire, ce qui va donc mettre le consommateur sous pression, et les limiter dans leur week-end de délire de shopping. On l'a dit et répété, le consommateur américain, c'est le moteur de la croissance. Donc sans lui, bah, je vous laisse faire les calculs et imaginez ce qui pourrait bien se passer si tout d'un coup le consommateur, eh bien, il arrête de consommer. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que la combinaison de ces effets sur les consommateurs et les entreprises font quand même un tout petit peu craindre à certains que les droits de douane puissent éventuellement, peut-être, provoquer une récession. Alors oui, je sais, on n'a pas le droit de dire récession, parce que c'est péché dans le monde merveilleux de la finance, de l'économie, et de ceux qui préfèrent quand même quand ça monte tout le temps, mais c'est pourtant une réalité qu'il faut commencer à imaginer, à accepter, puisque même dans son interview de ce week-end, lorsqu'on a demandé à Donald Trump s'il s'attendait à une récession en 2025, l'infatigable président américain n'a pas hésité à dire « Je déteste prédire ce genre de choses, mais il y a une période de transition parce que ce que nous faisons est énorme. Nous ramenons la richesse en Amérique, c'est une chose importante. » Et ça prend un peu de temps. Alors oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas dit « il y aura une récession ». Mais par contre, il n'a pas dit non plus « il n'y aura pas de récession ». Je pense qu'il est parfaitement conscient que ce qu'il veut faire va prendre du temps, coûter de l'argent et avoir des conséquences économiques. Mais que pour l'instant, il avance à tâtons comme nous et il n'en sait pas plus que nous. Et puis, pour conclure le sujet des droits de douane, ces hausses de prix pourraient évidemment intervenir à un moment où l'économie est encore un peu aux prises avec une inflation résiduelle. On l'a un peu oublié. Et des chocs de prix supplémentaires sur cette inflation résiduelle pourrait quand même rendre plus compliqué une intervention des gens de la Fed qui auraient vraiment de la peine à baisser les taux, encore une fois, ou même deux. Nous sommes donc dans une situation extrêmement délicate sur les indices en ce début de semaine, et visiblement l'interview de Trump, dont on vient de parler, met déjà la pression sur les futurs qui ont déjà une sale gueule, alors que les marchés sont même pas encore ouverts sur le vieux continent. Nous commençons la semaine en mode grand 8, un peu à l'image de celle que nous venons de terminer. Les tarifs douaniers et l'incertitude qui les entoure sont bien sûr le sujet principal du moment. Bien sûr, si on fait abstraction de la thématique du réarmement en Europe qui mobilise toutes les forces économiques et politiques,
nous sommes en guerre.
Les gens sont complètement obsédés par les décisions à venir au sujet des tarifs. C'est une chose, c'est un fait, et il va falloir vivre avec. Pour combien de temps? C'est encore une autre question à laquelle on peut pas vraiment répondre et qui va encore rajouter un petit peu plus d'incertitude. Et d'ailleurs, c'est elle, cette fameuse incertitude qui pèse sur notre morale. Parce que s'il y a une chose qu'on n'aime pas, c'est de ne pas savoir. Parfois, on préfère avoir une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'interpréter à l'autre manière, et parfois y trouver du bon ou du mauvais à l'intérieur, plutôt que de ne pas savoir. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, on ne sait pas. Tenez, par exemple, on peut rapidement parler des chiffres de l'emploi de vendredi, je vais pas vous embêter avec ça, mais on va revenir quand même dessus très rapidement. Pour faire simple, ils sont sortis à 151 000 créations d'emplois, on attendait 170 000, bref, en gros, c'était le premier mois complet sous Trump 2.0. L'un dans l'autre, c'était un peu en dessous quand même, hein, sans compter qu'on a également revu les chiffres du mois dernier et que le taux de chômage est sorti à 4,1% alors qu'on attendait 4%. Donc, en temps normal et dans un monde normal, ces chiffres-là auraient été considérés comme décevants. Bon, pas décevants au point d'envisager de se mettre short sur les marchés et de se faire tatouer le mot récession sur le front, mais on ne peut pas dire rationnellement et honnêtement, sans sourciller, que c'était quand même une bonne nouvelle. Non, ça n'était pas une bonne nouvelle. Et ça confirme que le marché de l'emploi continue de ralentir et que, pour l'instant, nous ne sommes pas encore en mode « Make America Great Again », mais c'est là qu'est la beauté de la finance, c'est qu'on a réussi à trouver que c'était quand même pas mal parce que c'était moins pire que l'on craignait. Voilà, voilà, nous y sommes. En fait, on avait fixé des chiffres pour les chiffres de l'emploi, des attentes, mais on n'était pas franchement sûr de nous et rien que d'y penser, je vois les doigts des économistes qui tremblaient quand ils ont dû remplir le formulaire des attentes des NFP. Les gars, ils étaient en train de se dire que ça pue, que 170 000 c'est beaucoup trop, que ça peut pas fonctionner, ils sentent que l'économie pue, alors ils mettent des chiffres pour se laisser croire que ça va encore pas trop mal, mais en fait, ils ont très très peur. Et vendredi, ils avaient peur que ça sorte à 35 000 au lieu de 170 000. Et là, ouf de soulagement, on s'en est encore sorti ce mois, parce que finalement, 151 000, c'est pas si pourri que ça. Vous avez vu, c'est quand même magique, hein. C'est aussi ce qui nous a d'ailleurs empêché d'aller clôturer en dessous de la moyenne mobile des 200 jours sur le S&P 500, ce qui aurait été catastrophique pour la suite des événements. Bon, après avoir la tronche du futur ce matin, je ne suis pas certain qu'on puisse tenir encore longtemps au-dessus de cette fine ligne de soutien qu'on a tracée sur un graphique, mais retenez quand même bien une chose, les analystes et autres économistes veulent croire que tout va bien se passer, mais ils savent au fond d'eux qu'il y a quand même un truc pourri au royaume de l'économie américaine. Même Trump le dit, il faudra un peu de temps pour rendre l'Amérique great again. Reste à prier pour qu'il y arrive vraiment, et si possible, pas trop à nos dépens. En résumé de tout ça, on commence la semaine dans le même état d'incertitude dans lequel nous étions vendredi dernier. Les droits de douane sont un problème et qui ne nous fait pas gagner en sérénité, mais en même temps, on a compris après 6 ou 7 semaines de Donald Trump à plein temps que ça allait pas être une promenade de santé et que si on croyait qu'on s'était fait balader lors du premier mandat et que plus rien ne pouvait nous surprendre, on s'est gouré. Et alors, ça risque même d'être bien pire, hein. Il va falloir s'habituer, les swings vont être violents, mais Trump a le pouvoir de nous surprendre toutes les 5 minutes, et il ne faudra jamais baisser la garde. À vendredi, même Powell a essayé de parler pour nous rassurer. Alors oui, l'économie est solide et se porte bien, selon lui. Cependant, il a très clairement répété qu'il ne pouvait pas prendre de décision sur les taux au vu de la situation actuelle et du chantier dans lequel l'administration Trump est en train de mettre le pays. On a besoin de réponses à nos questions et de lever ce risque. On a besoin de réponses à nos questions et de lever ce rideau d'incertitude qui nous pèse sur le moral. Ce matin, en Asie, la Chine est confrontée à sa propre inflation, alors que les Américains savent plus comment la faire baisser. La Chine a profité de ce dimanche ensoleillé pour annoncer une inflation négative. Sur une année, l'inflation est de moins 0,7%, et du coup, les économistes sont tous plus ou moins d'accord sur le fait que ça ne sera pas simple d'atteindre les 5% cette année dans ces conditions. Pour le moment, la Chine est en baisse de 0,37%, c'est pas la catastrophe. Et du côté du reste, le Bitcoin se fait encore déglinguer ce week-end, puisque le fonds de réserve Made in Trump n'aura pas satisfait le monde de la crypto-monnaie. Et puis, il va falloir trouver une autre raison pour pousser le Bitcoin à 400 000 dollars, comme c'est prévu depuis longtemps. Au passage, on signalera quand même qu'en lisant la presse du week-end, on peut tomber sur pas mal de commentaires très très négatif sur le Bitcoin, négatif et surtout désabusé, et je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout expert là-dedans, mais en observant les comportements du passé, c'est en général quand tout le monde vient vomir dessus que ça commence à remonter. À l'heure actuelle, le Bitcoin est à 82 250, et MicroStrategy, ou Strategy comme il s'appelle dorénavant, sont en PLS. Dans les nouvelles du jour, Donald Trump ne nous a pas encore gratifié d'informations sur les droits de douane, mais il faut dire que son interview du week-end devrait déjà nous tenir un peu occupés ce matin. Au Canada, ils ont trouvé un nouveau Premier ministre en remplaçant Trudeau, puisque c'est Mark Carney qui deviendra le Premier ministre canadien dans les jours qui viennent. Pour ceux qui se disent qu'ils connaissent le nom, c'est normal, c'est l'ancien patron de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada, un bon banquier central, un ex de chez Goldman Sachs qui prend les commandes du pays. Vous inquiétez pas, ça se finit toujours bien quand c'est un banquier qui dirige un pays. Autrement, il y a des risques de grève en Allemagne, dans les aéroports, mais il y a aussi Musk qui déclare qu'il ne coupera jamais le feed Starlink au-dessus de l'Ukraine, et il a aussi déclaré que les USA devraient arrêter de participer à l'OTAN et arrêter de payer pour la défense européenne.
Nous sommes en guerre.
Gros thème de la semaine passée qui pourrait être rallumé cette semaine. La semaine qui commence ne sera pas une semaine toute simple, tout d'abord parce que vous savez que je suis un indicateur des marchés agités lorsque je ne suis pas là, alors préparez-vous parce que dès demain, je suis en vacances et je reviendrai le 24 mars. Virtuellement, je suis déjà plus là et je vous gratifierai encore d'une vidéo demain et ensuite je vais y manger du renne, mais j'ai prévu plein d'autres vidéos pour que vous ne m'oubliez pas durant ces quelques jours. Mais mis à part ça, et pour ne pas jouer l'égocentrique, il faudra quand même retenir que la semaine va être un peu chaude, parce qu'il y aura les chiffres du CPI américain qui vont sortir mercredi. Ça va être super intéressant, sachant que les derniers chiffres étaient inquiétants, parce que trop forts, mais qu'on avait été calmé par le PCE d'il y a une semaine qui disait que ça allait pas mal finalement. Ce mercredi, si l'inflation est à nouveau forte, faudra quand même m'expliquer comment le CPI et le PCE sont aussi différents en se basant sur les mêmes données. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a peut-être une solution. Il est intéressant de voir qu'il y a un nouvel indice qui est apparu récemment, là, qui est mis à notre disposition et on pourrait commencer à s'y intéresser. Il s'agit de l'indice Trueflation. L'indice Trueflation est un indice basé sur les données des prix du marché qui sont collectées à partir de 30 sources, qui obtiennent 13 millions de points de données derrière. En gros, en live, ils ont les prix de l'école, les prix de la consommation en direct. Ils ont accès au temps, en temps réel au prix des biens de consommation, ce qui leur permet de fournir le niveau de l'inflation en temps presque réel. C'est en tout cas ce qu'ils promettent, hein, bien sûr. En partant du fait que les méthodes de calcul du CPI et du PCE datent d'une autre époque, où la technologie n'était pas ce qu'elle est, on peut peut-être se dire que c'est la nouvelle génération de l'inflation, du calcul de l'inflation, et qui arrive et que c'est peut-être l'avenir. Eh ben, on va tester, parce que si on se base là-dessus, il semblerait que la dite inflation est en train de se péter la gueule. On voit le graphique, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur leur site. L'inflation serait en train de plonger en direction des 1,5%. Et faites-moi confiance que si c'est le cas, c'est pas du tout ce que le marché l'a pricé dans sa tête. Bref, cette semaine on va parler inflation, et pas que, parce qu'il y aura aussi la confiance du consommateur version Michigan en fin de semaine, et en ce moment, la confiance du consommateur, c'est pas rien. Et puis il y aura aussi Oracle et Adobe qui vont publier cette semaine, une bonne occasion de reparler un tout petit peu de l'intelligence artificielle. Pour le moment, les futurs sont en légère baisse, et c'était bien pire à 1h du matin, faites-moi confiance. Et pour l'instant, eh bien on remonte en espérant un miracle du côté de Trump. Souvenez-vous que le S&P 500 est sur ses supports, et que le Nasdaq doit à tout prix éviter d'entrer en zone de correction pour ne pas faire monter la volatilité trop haut. Et puis on notera pour terminer que l'ensemble des Magnificent Seven se trouve dans une situation de survente et qu'il serait bon de commencer à inverser la tendance. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce lundi matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Faites-vous plaisir et surtout revenez demain matin pour un nouveau Morning Bull Live juste avant que je saute dans l'avion. Allez, très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.